Parrainat présente Vue du banc avec Christophe Cuchy et Raphaël Cosmidis. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 22e épisode de la saison 9 de Vue du banc. Aujourd'hui, on va se pencher sur la Ligue 1, non pas à travers les matchs qui viennent de se dérouler dans les heures qui viennent de se passer, mais sur des trophées qu'on a l'habitude de faire, des trophées inspirés de la NBA. On va élire à deux au lieu de trois, notre nos MVP, nos MIP, nos joueurs défensifs de l'année, notre super sub, notre rookie, notre coach de l'année et notre directeur sportif à 5 journées de la fin, et à deux puisque Christophe Cuchy est là. Salut Christophe.
Salut Raphaël.
Mais Florent Tonetti n'est pas là, il est en vacances, il a essayé de venir avec nous, mais les limites techniques, là où il se trouve, je ne veux pas révéler son emplacement, nous empêchent d'être à trois. Mais il va nous envoyer sa liste, c'est vraiment dans les conditions du direct, comme dirait Patrick Montel, sa liste, ses réponses, ses candidats pour ces catégories-là. Ça fait quelques années qu'on le fait maintenant, Christophe, déjà ce format. Je me souviens plus des vainqueurs qu'on avait fait, mais il me semble que certains vont peut-être se répéter cette saison. Alors on sait qu'il reste 5 journées, mais quelque part ça correspond à la NBA, puisque la NBA rend ses trophées avant les playoffs, Christophe.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est vrai que là on enregistre en jeudi après-midi. On sait par exemple qui est le meilleur défenseur de l'année, Marcus Smart, qui il y a quelques heures maintenant est arrivé au match des Celtics avec une espèce de veste façon... espèce de kimono, tenue de boxe, machin, que les mecs mettent en arrivant sur le ring avec marqué DPOY, Defensive Player of the Year. Oui, mais on n'a pas qui est le MVP, etc. Donc on est vraiment pile dans cette thématique-là. Et c'est vrai que plutôt que de faire, comme tu le disais, match par match, sachant qu'on est entre trois journées là qui se suivent en 8 jours, et voilà, avoir un peu un côté, tu vois, si on parle de Monaco par rapport à Nice, tout peut s'inverser dans 3 jours, par exemple, ouais. Sur la lutte pour le maintien, pareil. Donc autant faire des prix qui permettent de revenir un petit peu sur ce qui s'est déroulé sur toute la saison, sans forcément être pris par la suite. Et c'est, comme tu le disais, une tradition. Puisque là, j'ai trouvé le fait qu'on les fait par écrit le 28 avril, donc on est sur la même temporalité, 2015, sur les cahiers du foot, donc ça fait quand même 7 ans, ce qui confirme qu'on est plus tout jeune finalement, parce qu'on faisait déjà des trucs il y a pas mal d'années. Et donc du coup, on a, tu vois, c'est tout bête, je sais pas, mais on a du Mesloop, du Payet, du Lemar, etc., qui se retrouvent dans les différentes nominations des catégories, du Clausio Beauvue, enfin voilà, des noms qui sont encore là et d'autres qui sont totalement oubliés. Mais voilà, on va poursuivre cette tradition sur l'édition 2021-2022 de la Ligue 1, en sachant donc qu'il manquera quelques journées, mais comme il manque les playoffs sur les trophées NBA, je pense que globalement, c'est pas ça qui va te faire forcément changer d'avis sur la plupart des catégories.
Surtout qu'à l'exception du PSG, c'est tellement homogène que c'est pas parce que tu finis 2 points derrière ou 2 points devant une autre équipe que ça va fondamentalement changer ta saison. Alors pourquoi des trophées NBA? Bah parce que en fait on aime bien déjà tous les deux la NBA, Christophe, plus que Flo d'ailleurs. Donc tant mieux qu'il soit pas là, c'est mérité. Je fais pas partie de cet épisode, mais parce que ça permet aussi d'analyser les choses sous un autre prisme. Alors on va nous dire oui, mais c'est très individuel, mais ça va aussi se concentrer sur des équipes qui font des belles saisons. Donc c'est aussi ça qui nous intéresserait.
Oui, absolument, absolument. De toute façon, c'est difficile de briller dans un collectif qui est pas performant. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu le sens, même si cette saison, bon, on passe sur une analyse NBA, même si cette saison est un petit peu particulière. Mais les NBA, les trophées, genre de MVP, par exemple, traditionnellement, viennent sur des équipes, enfin, des joueurs appartenant à des équipes qui ont le meilleur bilan ou pas très loin. Cette année, c'est une exception. Il y a eu une exception il y a pas très longtemps avec Russell Westbrook. Mais toujours est-il que c'est un individu dans un contexte collectif. Et par exemple, c'est compliqué d'être meilleur défenseur sans qu'il y ait soit une équipe performante autour de soi pour faire briller ses qualités, soit au contraire, ça nous permettra de parler d'un collectif si ton meilleur défenseur, parce que autant moi je t'ai donné mes lauréats, autant je ne sais pas qui sont les tiens. Ça peut aussi être justement récompenser quelqu'un qui est le seul joueur crédible dans un effectif totalement dysfonctionnel.
Et d'ailleurs, on l'a vu cette saison NBA, on va pas pousser plus loin, on va pas parler de basket pendant une heure, mais Marcus Smart était pas forcément, sur le plan statistique, le meilleur candidat, mais ça récompensait aussi la saison de Boston depuis janvier, qui est exceptionnelle défensivement, et qui du coup a permis de mettre en avant ce qu'ils ont fait, et d'ailleurs, on l'a vu sur les premiers matchs des playoffs contre Brooklyn. Passons au foot, je vais te donner 4-5 candidats par catégorie à chaque fois, Christophe, et puis ensuite on en débattra ensemble. On va commencer par le MVP, puisque c'est quand même le... Le plus classique, et que dans le foot ça existe aussi, parce que c'est le meilleur joueur de la saison, en tout cas le plus important pour son équipe. Je te donne 5 candidats et on va même les classer, comme ça mènera au débat. Alors évidemment, Kylian Mbappé, Dimitri Payet, Wissam Ben Yedder, Martin Terrier, et j'ai une hésitation sur le cinquième, j'ai pensé à Seko Fofana, mais je ne sais pas si Seko Fofana mérite de faire partie des 5, vu la deuxième partie de saison lensoise et la sienne. Est-ce que sur les 4 premiers candidats, tu es d'accord? Même si certains vont peut-être se retrouver dans d'autres catégories d'ailleurs.
Je suis pas d'accord pour Wissam Ben Yedder,
D'accord.
que j'aurais pas mis dans ce classement, parce que même si faut pas le caricaturer en un Mauro Icardi où bah tout se joue sur les buts, et si t'enlèves les buts, y a pas grand-chose parce qu'il y a des passes décisives, il y a des vrais bons matchs sur les déplacements, etc. Mine de rien, je pense que son cas, sa candidature se base majoritairement sur ses 19 buts. Et sur les 19 buts, il y a 7 pénalties, ça veut dire 12 buts dans le jeu. 12 buts dans le jeu, c'est le même total, par exemple, que Randal Kolo Muani, que Gaëtan Laborde. C'est beaucoup moins que Mbappé, que Terrier. Et je pense pas, tu vois, c'est un but de plus seulement que Franck Honorat. Alors, il est sans doute un peu plus important dans le jeu que Franck Honorat. Mais j'ai tendance à vouloir mettre, par exemple, un Tchouaméni, plus important, même s'il performe pas statistiquement.
J'ai hésité entre les deux aussi, entre deux Monégasques, je ne savais pas lequel des deux mettre, mais comme Ben Yedder était sur une belle série et que ça a ramené un peu Monaco plus haut, j'ai penché pour lui, mais j'entends la candidature de Tchouaméni, qu'on risque de retrouver ailleurs, sans spoiler.
Oui, absolument. Sinon, après, je t'avoue que je t'ai un peu laissé les rênes pour tout ce qui est voilà, liste élargie, animation de l'émission. Dans tous les cas, je pense que notre numéro 1 sera le même. Je pense que c'est difficile de pas mettre Mbappé.
Ouais. Avant qu'on passe à lui, je vais te donner les 10 joueurs les mieux notés sur WhoScore dans Ligue 1 cette saison. Alors ça vaut ce que ça vaut, les algorithmes WhoScore, mais ça quand même dit quelque chose parfois. Premier, Kylian Mbappé évidemment. Deuxième, Messi. Troisième, Neymar. Parce que malgré leur niveau moyen, en fait, statistiquement, ils sont tellement créatifs que ça se récompense. Payet est 4, Bourigeaud 5, Terrier 6, Tanguy Savani est toujours là à la 7e place, mais on le voit beaucoup moins sur la deuxième partie de saison. Tchouaméni 8, Verratti 9, et Sofiane Boufal est le 10e. C'est vrai que Sofiane Boufal, il fait 8 buts et 4 passes dé dans une équipe en difficulté. Alors il y a peut-être des pénaux dans le lot, je pense. Et après, si on continue le top, Lucas Paqueta est 11e, Gaëtan Laborde est 12e, Bruno Guimaraes qui est parti est 13e, il était très bien sur sa première partie de saison. Fèvre est là, sur sa période brestoise, et après il y a du Ajorque, du Clauss, du Honorat, du Giroto, du Toko Ekambi et du Attal pour compléter le top 20. Est-ce que dans les noms que j'ai dit, il y en a un qui te convainc plus que les 5 de base que je t'ai donné?
Alors le problème c'est qu'il y a eu tellement de noms que j'ai
Messi,
zappé la
Neymar, c'est
moitié.
non. Messi,
Non mais
Neymar, c'est non. Bourigeaud, Savagnier, peut-être.
Savanier non parce que Montpellier a totalement disparu.
Oui, j'ai l'impression qu'il joue
C'est
plus, ouais.
11 points sur les 14 dernières journées il me semble avec lui qui prend des cartons rouges et qui est pas non plus hyper influent.
C'est pour ça que c'est difficile de prendre Boufal aussi, parce que il est dans une équipe qui gagne plus un match quasiment depuis des mois.
Ouais voilà. Bourigeaud, je le mettrais pas dans le top 5, mais ça me choquerait pas qu'il soit sur une liste élargie d'une petite dizaine, quoi.
Ouais.
Après, je veux dire,
Après,
c'est...
t'as du Ajorque, du Clauss, du Honorat, du Giroto sur la fin du top 20. Et Karl Toko Ekambi et Attal qui sont là, mais qui, je pense, vont révulser les supporters lyonnais et niçois s'ils entendent ça.
Après, c'est toujours pareil, c'est comme, tu vois, bon, on revient sur le truc NBA, mais souvent, les gens, ils disent, ah, machin, pour moi, il est pas dans mon top 10, il y a toujours des gens qui s'énervent, et tu fais, bah, ok, mais vas-y, donne-moi les 10, enfin, tu vois, fais
C'est
la
ça,
liste, et
ouais.
tu te rends compte qu'en fait, c'est difficile de mettre certaines personnes dans le top 10, parce qu'effectivement, t'en trouves 10 autres meilleurs. Et là, c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que, tu vois, tu me cites Honorat, etc., je me dis, oui, ça serait 11, 12e, j'ai du mal à le mettre dans le top 10, mais peut-être que je ne trouverais pas, 8 joueurs meilleurs qu'eux, par
Ouais.
exemple. Donc, c'est assez difficile de 100% valoriser les candidatures de ces différents candidats parce que j'ai l'impression que tous ont des hauts, des bas, sachant qu'un Honorat fait des stats, je trouve pas assez haut non plus, ultra ultra haut. Il y en a qui montent plus haut mais qui sont plus irréguliers. J'ai tendance à te dire quand même que sur tous les mecs que t'as cités, même s'il est un peu plus en veille depuis quelques semaines, j'ai quand même tendance à mettre Fofana au-dessus de tous ceux que t'as mis par exemple,
Ok.
ce qui en ferait déjà un plus
Je l'ai mis,
légitime.
hein, je l'ai mis dans les 5, c'est
Oui,
pour
non,
ça.
bien sûr, mais voilà, c'est pour prendre un petit peu de hauteur. J'ai même tendance à peut-être mettre un Kolo Muani au-dessus de quasiment tout cela. En tout cas, il n'y a
Je peux
rien
l'entendre.
qui me saute particulièrement aux yeux en disant, ah, celui-là, il fallait absolument le mettre dans le top 5, quoi. Je préfère
parlons.
largement un Payet, par exemple, à tous ces joueurs-là, quoi.
Parlons du vainqueur, en tout cas, il n'y a pas de doute. C'était déjà lui l'an dernier, on l'avait fait plus tôt dans la saison. Il me semble l'année la saison dernière les trophées NBA, je crois qu'on avait fait quasiment à mi-saison, et on avait mis Mbappé déjà un peu par défaut, parce que sa première partie de saison était bonne sans être fantastique. Là, pour le coup, alors 22 buts, donc quelques pénalties, 14 passes décisives, et puis surtout dans une équipe où les sources de créativité sont pourtant nombreuses, il a pris une avance considérable sur tout le reste, et il est au meilleur point de sa carrière, dans le pire collectif peut-être de sa carrière.
Oui, honnêtement, là, c'est vraiment une saison, en fait. Je sais pas à quel point ça nous donne 100% tort, parce que c'est toujours pareil, on fait des photographies à un instant T en essayant de se projeter. Mais malgré tout, on a été régulièrement, nous et les gens qui gravitent autour de nous, qu'on peut enregistrer dans les émissions, assez critiques sur son évolution, critique tout en replaçant dans le contexte. On savait très bien que ça restait quand même un top top joueur. Mais sur son évolution, on avait l'impression quand même d'une stagnation relative par rapport à la courbe de progression qu'il avait eue sur ses premières années depuis 2-3 ans. Et là, il a vraiment, c'est même pas qu'il a repris le fil d'une progression, c'est qu'honnêtement, il a pour moi complètement explosé. Et c'est vrai que certaines phrases qu'on a pu dire sur des comparaisons avec Rashford, par exemple, il y a un an, des choses comme ça, ou avec Haaland, même si Haaland, je me pose la question, enfin, il y a le facteur blessure, quoi. Autant Rashford, ça remet vraiment en cause certains propos qu'on a pu tenir, nous, oui. D'autres gens qu'on a invités, autant Haaland, je reste persuadé que s'il n'est pas blessé, c'est peut-être un autre... On peut peut-être se poser des questions quand même, parce qu'il était sur des bases qui dépassaient la Bundesliga. Il avait son but par match dans toutes les compétitions, notamment en Ligue des Champions, donc à voir. Mais c'est vrai que là, il y en a un qui a explosé en 6 mois pendant que l'autre se soignait pendant 6 mois. Donc,
j'ai l'impression qu'il y a eu un virage de Mbappé sur la deuxième partie de saison dernière, tu sais. Quand il y avait des matchs en équipe de France où on disait qu'il portait trop le ballon, qu'il voulait jouer un peu comme un autre. Et puis il y a eu les matchs éliminatoires du PSG, où il a roulé sur Barcelone et mis en grande difficulté le Bayern. Et depuis, t'as l'impression qu'il est sur son rythme de croisière, qu'il sait comment il doit jouer, qu'il se connaît et qu'il sort plus maintenant du schéma qui marche bien.
Oui, alors il y en a forcément eu d'autres, mais ça me vient pas en tête. Le dernier match qui m'a vraiment frustré de lui, c'est le premier match de la saison, vraiment important, et le premier avec les trois stars, MNM, là, machin, face à Bruges, où Bruges défendait avec une ligne à 40 mètres, et au lieu de prendre la profondeur où tu te dis il aurait pu mettre 5 buts, il demandait à chaque fois dans les pieds, et du coup tout le monde demandait dans les pieds, donc c'était un match un peu bête sur le plan tactique, t'avais l'impression que personne comprenait ce qu'il devait faire. Voilà, ça sortait un petit peu du plan, mais depuis il joue vraiment juste, et c'est pas je joue juste je suis un je sais pas Alou Diarra, j'en sais rien, tu sais, qui fait jouer les autres mais qui va pas prendre de
la
risque,
la sobriété,
c'est ça qui va être bon, je rends la balle, j'en fais pas trop, etc., je reste dans mon rôle. Lui, c'est un rôle élargi où bah si ça demande de prendre la balle, de faire 40 mètres et d'aller marquer, c'est ce qu'il va faire. Honnêtement, la comparaison avec Ronaldo, j'ai toujours compris le sens, j'ai jamais toujours trouvé ultra pertinente sur l'aspect niveau à l'instant T. On a fait les sagas sur Copa Arena où on voyait des choses de Ronaldo plus jeune, hors Coupe du Monde de Mbappé, qui est un petit peu particulière, mais où je me disais, donc Ronaldo a quand même un temps d'avance sur certaines choses. Autant la photographie à, c'est quoi, c'est 22 ans j'imagine pour Mbappé,
elle il est quand même... 24 maintenant.
24, ah, ça avance.
Ouais, 98 quand même.
Ouais, c'est vrai. À 24, honnêtement, l'écart se résorbe. Il y a finalement pas non plus énormément de joueurs de 24 ans dans l'histoire du foot qui avaient atteint ce niveau-là. J'étais le premier à vraiment pas être client de pas mal de choses. Là, il y a rien à dire. En fait, il est largement au-dessus de ses partenaires et je pense il sera pas Ballon d'Or, mais je pense que c'est peut-être sans doute le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle.
Je dis 24, mais c'est l'année de ses 24 ans puisqu'il est de décembre, donc il est encore à 23 ans et demi à peu près, Mbappé. Qui tu mettrais deuxième dans ce top ? Payet, Terrier, Fofana ?
Grosse hésitation entre Terrier et Payet. Ça dépend comment on prend le truc, sachant qu'en plus, c'est toujours pareil, on peut avoir dans un coin de la tête certaines performances de Payet en Coupe d'Europe qui du coup vont un peu valoriser sa candidature et le rendre peut-être plus beau qu'il n'était en Ligue 1. J'ai peut-être quand même envie de mettre Payet, mais honnêtement,
J'ai pas d'argument massue.
Ouais, non, j'ai pas d'argument massue. On peut m'argumenter l'un ou l'autre et j'entendrai les deux positions.
Dernière passe de Payet en championnat le 1er février. Donc il y a des buts depuis, mais la partie création est moins présente. Alors c'est peut-être aussi parce que ça croque devant, il faudrait qu'on se plonge dans les stats. Mais c'est intéressant de voir qu'un joueur comme ça n'a pas fait de passe depuis maintenant plus de 2 mois. Il faudra voir comment ça se goupille sur la fin de saison. Après, ils sont deuxième au classement, donc c'est plutôt logique qu'ils soient là. Et de toute façon, je pense qu'on va parler de Martin Terrier dans la catégorie suivante, Christophe. C'est la meilleure progression, le MIP oui. En anglais. Je te propose 5 candidats, et là, je vais peut-être plus te convaincre sur les choix que j'ai effectués. Donc, Martin Terrier en est, évidemment. Benjamin Bourigeaud, un autre René, est présent. Adrien Thomasson à Strasbourg. Jonathan Clauss, de Lens, récompensé par l'équipe de France. Et Franck Honora, qu'on a déjà cité, du côté de Brest. Des joueurs qui ont tous des bonnes stats, des stats, des meilleurs stats de leur carrière d'ailleurs, quasiment à chaque fois. Et qui participent au jeu d'équipe plutôt sympa à observer, même si Brest est en recul par rapport aux autres équipes. Mais Honora est de loin le meilleur joueur de Brest. C'est une catégorie où il y a pas mal de bons candidats, je trouve, cette année.
Oui, alors j'écarte d'emblée Clauss, que je trouve du même niveau que la saison dernière.
Ok, j'entends, j'entends.
Donc, il est sans doute monté plus haut à un moment, mais il a quand même eu un creux, d'ailleurs peu avant d'être appelé en équipe de France, ce qui est assez rigolo. Il n'a pas été appelé au moment où il était le meilleur, et au moment où tu sens qu'il est un peu plus dans le trou, c'est à ce moment-là que Didier Deschamps le convoque. Maintenant, moi, pour moi, Terrier indiscutable, même si, fait amusant, je m'avais dit qu'il n'avait pas fait de passe décisive cette saison.
Non, il n'a pas fait une seule passe D en Ligue 1 cette saison.
Donc c'est assez rigolo. Mais encore une fois, moi je m'attache beaucoup au but dans le jeu, parce que mine de rien, un penalty n'est pas marqué, mais n'empêche que c'est un cadeau que tes partenaires n'ont pas, une chance à 80% de marquer, et c'est 18 buts dans le jeu. Ce qui est un total absolument, absolument colossal hein, sur ses 20 buts, il a 2 penalties. Et même si, pour boucler le truc d'avant, je pense que Payet est un petit peu plus essentiel au jeu de son équipe, sur le côté, tu vois, enfin, s'il y a un faux neuf en Payet, c'est parce que c'est Payet, etc. Tu l'as un peu fait avec Harit, machin, mais c'était pas forcément parce que eux étaient là que tu faisais ça. C'est juste que tu conservais ce qui était fait sans, enfin, dans le temps où tu alignais Payet. Autant, donc Terrier un peu plus en marge, c'est un élément d'une chaîne, etc. Mais si, bon, après, Souleymana et Doku sont tout le temps blessés, mais si tu alignes tout le temps Terrier, pas forcément des ailiers, etc., c'est parce que c'est un élément important. Et encore une fois, enfin, je vais pas m'amuser à faire un historique, même si j'ai bien envie de le faire, mais sur les buts dans le jeu, tu vois, la saison dernière, Ben Yedder et Depay sont à 20 buts, il y en a 10 hors penalty pour Ben Yedder, 12 pour Depay. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir, tu vois, ces classements-là a posteriori, c'est-à-dire que par exemple, Moïskine en avait 13, tous dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que Moïskine avait plus marqué dans le jeu que Depay, qui avait beaucoup plus de buts. Et tu vois, Ludovic Blas, par exemple, avait autant de buts dans le jeu que Ben Yedder. Donc, c'est toujours ce truc-là qui fausse un petit peu les stats. Mais, tout ça pour dire que 18 buts dans le jeu, c'est un truc extrêmement rare. Ouais.
D'ailleurs, tu te rappelles de la saison de Nicolas Pepe, qui part à Arsenal pour je ne sais pas combien, il y avait 21 buts, donc, dont il me semble 7-8 sur penalty, quand même.
Ouais, en fait, j'espérais qu'ils avaient regardé les passes décisives aussi, parce qu'ils en avaient fait pas mal. Mais oui, ce truc-là, c'est quand même toujours quelque chose à prendre en compte, parce que le chiffre brut peut être un petit peu faussé malgré tout. Et là, de mémoire, je crois que la Cazette, par exemple, a jamais fait de saison avec autant de buts hors penalty, par exemple, en Ligue 1. Et c'est quelque chose qui vraiment, si tu prends les dernières saisons, c'est pas fait si souvent que ça. Et l'année dernière, il a 9 buts avec Rennes.
Quelques chiffres sur cette progression, justement, Christophe. Déjà, sur les passes décisives, c'est intéressant, mais je l'avais mis dans un article pour l'équipe que j'avais fait sur lui. Il a plus d'expected assist cette saison que la saison dernière quand il fait 7 passes D. Il a 4 expected assist contre 3,87 la saison dernière. C'est juste que ça a croqué autour de lui. Et en termes d'expected goals, énorme explosion, parce qu'il était à 6 la saison dernière en 2400 minutes. Un peu plus même. Et cette saison, avec quasiment le même nombre de minutes, il est à 13,8. Donc il a plus que doublé son total d'expected goals, il est à 0,52 par 90 minutes. C'est de loin son record en carrière, sauf lors de sa première saison à Lille quand il avait joué, mais sur un tout petit échantillon. Donc c'était très trompeur. Donc c'est une vraie explosion, mais de toute façon, après le jeu de Rennes a quand même tendance cette saison, avec son allant offensif, son mouvement, à faire des bons chiffres pour tout le monde. Parce que c'est le cas pour Bourigeaud aussi. C'est un peu moins le cas pour Laborde qui marque moins ces derniers temps, mais c'est quand même un jeu où c'est plus facile de stater. Peut-être le seul bémol qu'on peut émettre, ou en tout cas le doute qu'on peut émettre sur est-ce que c'est reproductible ou pas, pour voir si Terrier dans une équipe qui tourne moins bien se créera autant d'occasions.
Même si on pourra t'argumenter que, alors encore une fois, l'échantillon est assez réduit, il y a les blessures, il y a le système, mais que Doku, Souleymana n'ont pas non plus tout le temps affolé les compteurs quand ils étaient là, et que Laborde est sur les standards, voire légèrement inférieur aux standards qu'il avait la saison précédente. Mais c'est vrai que ça tourne quand même hyper bien. Et en fait, moi, ce qui vraiment m'impressionne avec Terrier, c'est ce côté... En fait, il arrive très souvent en bout de chaîne, alors que c'est pas forcément son profil, quoi. Enfin, après, c'est toujours difficile de définir le profil de Martin Terrier, qui a parfois joué faux pied, qui était parfois pur ailier, mais plus ou moins un genre ailier défenseur, quoi, profil un peu de Dirk Kuyt, qui des fois avec les espoirs se retrouvait en pointe. Enfin, c'était une espèce d'attaquant complet où tu te disais bon, il peut. Alors, pour moi, ça n'a jamais été un ailier de 4-4-2, par exemple, mais dans un 4-3-3, tu peux le mettre à tous les postes offensifs,
Mais tu vois,
voire 9 et demi dans un 4-4-2 en tournant autour d'un mec.
moi j'ai utilisé quelques fois la formule. Pour moi, il y a quelques années, il excellait en rien et maintenant il excelle en tout. Donc c'est très particulier comme progression.
Surtout à son âge, parce que mine de rien, si tu prends le côté, tu vois, si tu reviens sur le côté NBA, il y a des progressions qui sont attendues vu les âges
Ouais, le
et le.
shoot, des choses comme ça avec le temps.
Voilà. Et le MIP est quand même censé, hein, c'est pas toujours le cas, mais récompenser quelqu'un dont voilà, il c'est pas un mec de 19 ans qui devient hyper bon à 20 ans. Je dis oui,
Ouais.
bah, en même temps c'est logique. Là, Martin Terrier, il vient d'avoir 25 ans, et c'est-à-dire que il avait montré des choses encore une fois, mais s'il avait montré ça, il serait peut-être pas à Rennes, et en tout cas il aurait pas coûté ce montant-là. Et c'est vrai que t'as l'impression que tout s'imbrique bien et tout se met bien. Alors il devait forcément déjà avoir une partie de toutes ses qualités avant,
Y avait
mais
pas
ça
mal de
sort un
pépins
peu de nulle
physiques, il y
part
avait
qu'il
pas mal
marque
de
autant.
pépins physiques aussi. D'ailleurs, on en avait parlé avec Antonin da Fonseca pour un des bouquins sur le fait qu'il était très très musclé et qu'il avait besoin d'un travail optimal pour se maintenir. Donc peut-être qu'il y a eu un boulot là-dessus. Ce serait intéressant d'avoir des gens de Rennes pour nous en parler, si un jour
Antonin
des oeufs.
Fonseca, juste si tu peux préciser qui c'est, parce que les gens ne
C'est
connaissent pas
le
forcément.
préparateur physique de l'Olympique Lyonnais à l'époque où Martin Terrier était là-bas. Il y est toujours d'ailleurs, il est directeur de la cellule performance maintenant, je crois, il me semble. Mais si les clubs s'ouvrent un jour, juste nous dire qu'au moins vous avez bossé pour. Parce qu'il se pète plus du tout en fait, c'est un des joueurs qui a le plus joué cette saison à Rennes. Et pourtant d'autres joueurs ont du mal à enchaîner. Donc là il a été 32 fois titulaire sur 33 journées.
Même si, petite statistique amusante, il a terminé un match que 6 fois.
Ouais, mais
Ah non, mais
je.
c'est pas forcément négatif, mais c'est amusant d'avoir un mec qui marque autant, mais qui joue
Ouais.
jamais 90 minutes, en fait. À chaque fois, il fait entre 75 et 80, quoi.
Après, il y a aussi la richesse offensive de Rennes, mais oui, ça fait partie des joueurs qui ont tendance à sortir souvent. On se rappelle de Ndombele à Tottenham qui sortait à tous les matchs à la 60e. Parce
Mais là,
qu'apparemment,
c'était un peu
les.
plus.
Ouais, c'était un autre problème.
On se
En
souvient
tout
de
cas.
Verratti Cabaye également.
Oui, ça c'était aussi pour d'autres raisons. Bon, c'est en tout cas, je pense, le vainqueur d'assez loin, même si, on l'a dit tout à l'heure, Franck Honora fait une saison magnifique du côté de Brest. Et il est un peu dans le même. Je crois qu'il est quasiment de la même génération que Martin Terrier. Peut-être un peu plus âgé, Franck Honora. En 25 aussi, c'est
Ouais,
ça?
25 aussi, il a 6
Et
mois, un an de plus, quoi.
c'est un joueur amené à évoluer plus haut, Christophe. Pour moi, c'est top 6, top 7 Ligue 1 la saison prochaine. Et je pense vraiment que ça peut qu'il peut s'éclater dans une équipe qui tourne bien. Par exemple, Rennes, tu vois, s'ils doivent remplacer un de leurs attaquants. Ou à Lyon, s'ils veulent un mec qui percute sur le côté. Ou même à Marseille, s'ils veulent un joueur offensif. Tu vois, je pense que vraiment que c'est un joueur qui est prêt à passer le cap. Parce que là, dans un Brest qui est quand même beaucoup moins joueur que par le passé, il est impliqué sur quasiment toutes les situations offensives de Brest.
Ouais, c'est vrai. Alors il avait déjà marqué 8 buts la saison dernière, là il passe à 11. Donc on peut estimer que à partir du moment où il a plus joué en plus, c'est pas un écart énorme, mais je trouve que un il est plus influent, deuxièmement que Brest attaque moins, tourne moins bien, donc du coup, c'est un peu plus difficile, faut un petit peu plus s'arracher pour marquer ces buts-là, et je trouve comme tu le disais, c'est un petit peu plus facile de se projeter à mon sens sur sa progression individuelle, en gros sa capacité à s'intégrer dans une équipe top 6-7. Typiquement de la dimension de Nice, Rennes, etc. Que pour certains joueurs dont tu vois, pour qui, à mon sens, il faut un peu plus se projeter. Tu vois, typiquement un Nordin, par exemple, pour moi, ou un Bouanga sur certaines séquences, mais si on reste sur Nordin, que Julien Momont, par exemple, notre ami, aime beaucoup également, t'as envie de te dire qu'il a rien à faire à Saint-Etienne. De l'autre, c'est pas le taulier de Saint-Etienne, et Saint-Etienne est vraiment très bas. Alors que Brest, mine de rien, bon, est 12e, mais pas non plus 42 points après 33 journées. Ça reste un total tout à fait décent. Et tu te dis, la marche est pas non plus immense pour aller chercher, bah, tu vois, Nice, là, par exemple, il y a
Ouais.
12 points d'écart. Donc, c'est vrai qu'à 25 ans, je pense que faire un petit saut, ça me paraît difficile d'aller vraiment dans un top, top club. Ou, par exemple, imaginons, bon, après, c'est pas le style de jeu, enfin, avec le système de jeu. il n'y a pas utilité. Mais par exemple, à Strasbourg, si Strasbourg passait en 4-3-3 avec des ailiers, ça pourrait être un joueur qui continuera à évoluer à ce niveau-là. Donc vraiment très intéressant. Et là aussi, explosion relativement tardive, parce qu'il y a 2 saisons, il est super sub à Saint-Etienne, quoi. Enfin, j'ai super sub, en fait, il rentrait même pas spécialement, mais il jouait assez peu à Saint-Etienne, et la saison d'avant, il est à Clermont. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est depuis 2 saisons avec Brest, qui s'affirme comme un très bon joueur de Ligue 1, et encore une fois, j'insiste, hein, mais quand tu mets 11 buts et tous dans le jeu, t'es sur un, en gros, c'est le même chiffre que Jonathan David, par exemple.
En plus, 4 passes des aussi dans un... Ouais. Une équipe qui marque pas beaucoup de buts, joueur qui a été formé à Nice, et ça pourrait être une cible quand on voit l'apport des ailiers niçois cette saison. C'est pas fantastique, le mettre en concurrence avec Stengs et Kluivert, ça pourrait être sympa pour Nice, surtout dans un 4-4-2 où pour le coup lui ça lui colle parfaitement. Il peut même jouer dans les deux devant, Honor, hein, si tu as un joueur un peu plus stationnaire avec lui devant. En tout cas, un joueur à chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose du côté de Brest. Et on sera curieux de voir où il sera la saison prochaine. Thomasson, je pense qu'on en a déjà parlé dans plusieurs formats, et même y compris dans notre émission qu'on avait fait. On avait fait 2 petites capsules, dont une sur Adrien Thomasson dans le jeu strasbourgeois, un joueur qui a progressé entre les lignes, qui est toujours là, présent dans la surface quand il faut.
Vous l'avez vu aussi en plus, Thomasson, en interview.
Donc. Et on l'a eu en interview sur Cop Arena, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, on le mentionne dans les candidats, même si Martin Terrier a quand même de l'avance sur tous ces garçons-là. Je donne le MIP à l'envers de Flo, donc le joueur qui a le plus régressé. C'est Yacine Adli, selon lui. Voilà, c'est pour l'instant la seule chose qu'il nous a envoyé. Donc je le cite. C'est vrai qu'il y a Yacine Adli, saison très compliquée du côté de Bordeaux. On passe au joueur défensif de l'année, Christophe. Oui. Où forcément, ça va être difficile de récompenser un attaquant. Mais c'est bien aussi, parce que dans le foot, les prix vont souvent aux joueurs offensifs. Parce que c'est plus facile d'être vu quand tu joues devant. C'est rare qu'il y ait des ballons d'or ou d'autres trophées donnés à des gardiens de défenseurs. D'ailleurs, ils ont maintenant inventé... Alors, comment ça s'appelle, le trophée Yashin, c'est ça, pour
les gardiens.
Pour récompenser le gardien de l'année, qui est plutôt une bonne idée, d'ailleurs. Joueur défensif de l'année, j'ai quelques candidats, mais je pense que là aussi, le vainqueur, on va être d'accord. J'ai Aurélien Tchouaméni, Walter Benitez du côté de Nice, André Giroteau à Nantes, pour des raisons à la fois défensives et offensives. Dante, aussi à Nice, parce qu'il tient toujours la baraque dans une équipe qui fait partie des meilleures défenses du championnat. Et William Saliba, par rapport à ce qu'il apporte au jeu de Marseille et surtout sa façon de défendre des grands espaces, même si je pense que ton choix va s'orienter assez aisément vers le premier que j'ai cité.
Ouais, ça s'oriente vers Tchouaméni. Pour en fait, il coche toutes les cases, c'est-à-dire il cache la case simplement ressenti visuel quand je regarde les matchs. Il est ultra bon. Alors aussi, le regard peut être un peu faussé parce qu'il est aussi bon en équipe de France.
Il a eu un trou apparemment où les supporters de Monaco n'étaient pas très contents là il y a quelques semaines, mais ça semble être revenu plutôt bien depuis la bonne série, la Monégasque avec Fofana avec lui au milieu aussi.
Bah justement, c'est un point que j'allais évoquer tout à l'heure, mais je le fais tout de suite. Je pense que Philippe Clément. Alors après, je pense, hein, j'ai pas la confirmation, je peux aller lui demander, mais lui faisait tellement confiance qu'il l'a surresponsabilisé, c'est-à-dire qu'à un moment, sur les débuts du nouveau coach, ça jouait en 4-1-4-1, et sur les deux milieux relayeurs devant lui, c'était Jean Lucas, que je trouve pas ultra bon, et qui, pour un milieu axial, défensif, machin, selon comment tu le prends, je trouvais pas hyper travailleur non plus, pas hyper bon offensivement d'ailleurs, je sais pas trop... ce dans quoi il excelle, et Folland, qui était nominativement relayeur, mais qui dans l'absolu passait son temps à se projeter et à faire des courses tardives en deuxième rideau pour ensuite aller conclure la surface, c'est pour dire que lui était vraiment tout seul en récupération, le bloc était coupé en deux, et j'ai envie de dire que c'était quasiment mission impossible, c'est vraiment pas pour le dédouaner, parce qu'il a eu 2-3 performances effectivement pas très bonnes, mais c'est vrai que quand tu voyais, j'ai fait un article pour Eurosport notamment sur le sujet, quand tu voyais la façon dont l'équipe était articulée, honnêtement, on lui demandait énormément de terrain à couvrir et c'était quand même assez compliqué pour lui. Mais donc ce que je disais visuellement, pour moi, et j'ai pas vu beaucoup de mauvais matchs de sa part. Généralement, c'est même pas des matchs moyens, c'est généralement il est à 8 sur 10 quoi. Deuxièmement, sur l'aspect statistique, sur les ballons récupérés, etc. J'ai plus forcément tout en tête, mais vous retrouverez ça sur certains graphiques d'Ismaël sur Cop Arena où c'était par soit le meilleur français, soit le meilleur joueur en Europe. Tout simplement, il écrasait tout le monde sur le plan statistique, ce qui mine de rien. Voilà, ça confirme un petit peu parce que t'as pas forcément toujours les yeux sur tout, et c'est bien que les chiffres confirment un petit peu l'impression visuelle. Et puis il y a le classement, il y a le niveau des partenaires, en fait. C'est-à-dire que Monaco n'a pris que 34 buts, ce qui est pas un truc incroyable, mais ce qui mine de rien te permet quand même d'être la quatrième défense du championnat, ce qui est très correct. Et quand tu vois le reste des partenaires, Nubel est pas un gardien incroyable, en tout cas sur cette saison. Fofana revient plutôt bien, mais il y a eu des passages vraiment difficiles. La charnière a aussi des passages difficiles. Enfin bref, t'as l'impression que vraiment le seul qui a gardé le cap, c'est lui. Là où par exemple, j'ai un au-delà de Benitez qui est un gardien, donc c'est un petit peu différent des joueurs de champ, mais il y a des équipes où finalement comme Nice dans son 4-4-2 très compact, j'ai du mal à ressortir vraiment un joueur, même si j'entends que Dante fait une bonne saison et que sans lui Nice a toujours eu historiquement des difficultés. Mais tu dis, comme tout le monde défend, c'est une tâche un peu plus facilitée, comme tout le monde défendait à Lille la saison dernière, là où vraiment j'ai l'impression que lui avait une tâche pas hyper facile du côté de Monaco.
Je filtrais en même temps sur Oscar pour voir où il était placé parmi les meilleurs milieux défensifs cette saison. Je te les donne. Premier, Joshua Kimmich. Deuxième, Casemiro. Troisième, Aurélien Tchouaméni devant Rodri, Mikel Merino et Dani Parejo. Alors, c'est des milieux défensifs, des milieux axiaux, en gros, des 6-8. Hein. J'ai pas inclus Connor Gallagher ou Sergei Milinkovic-Savic, qui joue un peu plus haut, ou Çalhanoğlu, qui joue relayeur, mais qui est quand même plus dans le dernier tiers que dans le premier. Donc voilà à peu près les joueurs avec qui le comparer. Et d'ailleurs, le Real est annoncé sur sa piste. Ce serait logique pour remplacer Casemiro, même si Casemiro n'est pas encore cramé. Mais en tout cas, il est très bien placé parmi ces joueurs-là. Il est devant Rodri en termes de notes, mais bon, c'est un autre style de joueur. En tout cas, il est... évidemment, tout le monde va être sur le dos, parce qu'on n'a pas parlé de ce qu'il fait avec ballon. Mais comme c'est juste et précis aussi, bah, c'est encore plus intéressant qu'un milieu d'œuvre qui se contente de récupérer. Est-ce que tu avais d'autres candidats quand tu as cherché le vainqueur de ce trophée, Christophe?
Je t'avoue que le premier auquel j'avais pensé, c'était Benitez. Alors après, il y a l'aspect très récent, le recency bias, mais il offre un but face à Monaco sur le centre de Vanderson qui va peut-être changer pas mal de choses au-delà de l'aspect derby pour la suite de saison des deux clubs, parce que c'est vraiment le match à 6 points. Alors c'est un stéréotype, mais forcément quand tu perds et que l'adversaire gagne et que t'es à la lutte, ça fait quand même une balance comptable assez importante sur un seul but. Mais voilà, c'est statistiquement, il me semble que c'est toujours le meilleur gardien de Ligue 1. Il est bon, voire très bon. Après, pour moi, il survole pas suffisamment son sujet, comme certaines saisons, comme une saison de Larsener, par exemple, il y a 2-3 ans.
Deuxième derrière Donnarumma après ce match.
D'accord, ok.
Troisième, c'est Alexander Nubel, hein, en post-shot expected goals par 90.
Tu vois, ça, c'est le moment où les stats contredisent un petit peu l'impression visuelle, même si Nubel...
Après, Nubel, c'est pas forcément ce qu'il fait défensivement qui pose problème, tu vois. Il a souvent été ridicule sur la partie avec ballon.
Ce qui est un peu dommage, parce que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont pris.
L'école allemande.
Mais oui, après, Donnarumma était pas mauvais, mais là, c'est pareil, j'ai du mal à récompenser. Il était même bon. J'ai du mal à récompenser un gardien qui est décédé psychologiquement depuis un mois.
Ouais, qui joue un match sur deux, en plus.
Et qui joue en plus un match sur deux. Mais c'est vrai que sinon, tu vois, je me posais des questions, mais encore une fois, alors après, de toute façon, tu peux pas trouver 15 joueurs qui sont dans un contexte difficile et qui brillent, et tu te dis, ah oui, c'est eux qui tiennent l'édifice. Mais tu vois, je me posais des questions sur les défenses intéressantes, du coup, savoir un petit peu d'où ça venait. C'est vrai qu'un Marquinhos, par exemple, me posait la question de quoi faire de lui. Pareil, Saliba, quoi faire de Saliba. J'ai l'impression que ses mauvaises performances sont un peu plus en Coupe d'Europe qu'en championnat. Donc du coup, si on fait les trophées du championnat, faudrait pas forcément le pénaliser. J'aime bien Niamsi aussi, du côté de Strasbourg. Après, défense à 3, c'est toujours... voilà, tu partages un petit peu les responsabilités. Perrin fait plutôt une bonne saison. Djikou fait une très bonne saison aussi. Donc Djikou, Niamsi, j'ai un peu du mal à les séparer, là, les deux. Abdelhamid Fass, c'est un petit peu un joueur particulier, je sais pas trop comment le prendre. Omari, jusqu'à il y a 3 matchs, c'était vraiment pas mal. Enfin voilà, il y a pas mal de candidats que je trouve intéressants, mais j'ai pas vraiment de coup de cœur. Je sais pas si toi t'en as
eu. Non. Après, Giroto fait une belle saison, en plus il apporte offensivement, et il joue parfois défenseur central, parfois milieu def. Donc, je suis assez client de Giroto quand même, qui a marqué des buts importants en plus, et qui est toujours à 100%. Mais sinon, il n'y a pas une énorme flopée cette année de défenseurs centraux impressionnants, ou de latéraux même qui défendent bien, ou de milieu def, parce qu'au PSG, il n'y a pas de candidat. À Marseille, il n'y en a pas tellement non plus. À Nice, bah, il y en a, mais je trouve que c'est difficile de répartir les responsabilités et de créditer un joueur plus qu'un autre, donc à part Benitez.
Par contre, j'ai une idée.
Dis-moi.
Dis-moi si elle est folle, alors pas pour gagner, hein, mais pour placer assez haut, Florian Sotoca.
Oui, parce que c'est vrai qu'il court beaucoup pour défendre, et il y a un nombre d'efforts et de courses défensives de son côté Mais il faudrait que je trouve, je vais essayer de les trouver là, d'ici la fin de l'épisode, les stats de pression, il me semble qu'elles sont sur FBRF,
A
site très
priori,
utile
oui.
pour ceux qui veulent aller voir en détail, vraiment en détail. C'est le site public avec le plus de détails, je pense, dans les stats, pour voir qui défend le plus et qui défend le mieux. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qui sont les joueurs qui font le plus d'efforts défensivement. On a longtemps eu les stats qui ont été sortis de kilomètres parcourus, mais sans qu'on ait plus d'infos que ça là-dessus. Et c'est vrai que ça nous apporte beaucoup d'avoir plus d'infos là-dessus. Alors tiens, je vais te donner les. Je te fais un quiz rapidement, Christophe.
Ça va pas être
Bon,
facile.
c'est un chiffre total, donc c'est pas par 90. Qui sont les joueurs selon toi cette saison qui ont réalisé le plus de pression sur le porteur? Je précise que c'est le nombre de fois où un joueur est sorti cadré à un adversaire ou le pressé, et que ce joueur a perdu le ballon, ou en tout cas l'équipe adverse a perdu le ballon dans les, je crois, 5 ou 6 secondes, 6 secondes qui ont suivi.
Donc pression réussie ou
Là, c'est des pressions totales, donc c'est pas
pression.
forcément réussi. Pression totale.
Bah sachant que en plus tu divises pas par tiers de jeu, donc c'est
Ouais.
vraiment bah si c'était si jouait en Ligue 1, ça serait Konrad Leimer qui en fait trois fois plus que tout le monde. C'est
C'est
très
un
difficile.
Lorienté qui court beaucoup,
Ah, c'est à
effectivement.
Bergel
Ouais,
du coup.
à Bergel qui a le plus de pression, mais avec une avance
Considérable.
considérable. Il a
Ouais.
785 pressions depuis le début de saison.
J'aurais dû l'avoir, en plus j'étais en train de réfléchir à des candidats plus ésotériques, mais oui, on sait que il est.
Après, il a beaucoup joué, il a joué quasiment tous les matchs. Et le deuxième, c'est Thomasson,
Ah bah tu vois.
qui en 6 matchs de moins est à 647. Donc Thomasson aussi, ça court beaucoup, a
Pour le
priori,
coup, c'est
peut-être.
100% dans les stéréotypes. C'est-à-dire, c'est
Ouais.
alors c'est facile à dire après, mais c'est vraiment les deux noms limites que j'aurais donné les premiers. À Bergel, oui, je savais.
Et t'aurais
Thomas.
donné qui en troisième?
Là, du coup, tu vas me le donner. Je vais faire. Ah oui, bien sûr, je l'aurais dit. Parce
C'est
que du coup, une équipe
même
comme
poste à peu
Nice,
près, même poste, mais profil petit qui court beaucoup.
Parce qu'une équipe comme Nice est toujours bien en place. En fait, le problème, c'est que là, j'ai les listes des 20 équipes sous les yeux. Mais du coup, à chaque fois, je photographie l'équipe, les joueurs, etc. Mais ça prend un petit moment, quoi. J'ai du mal à faire
Ah,
une seconde par équipe.
je te le donne, mais tu vas dire, ah bah oui, évidemment, c'est Maxence Cacré.
Ah, évidemment. Oui,
Voilà.
forcément.
Et derrière, t'as Benjamin André et André Giraudeau qui est très bien placé.
Mais le manque de matchs de Cacré aurait pu le pénaliser quand même sur. C'est-à-dire que vraiment, lui aussi, par match, il stat énormément.
Et en termes de pression réussie, Abergel est toujours premier devant Lucas Paqueta, qui réussit une pression sur trois. T'as du Madi Camara, du Tchouaméni qui est encore là, Salis Abdoul Samed de Clermont qui est là aussi, Jordan Ferry, Yacine Adli est là, tiens. Bon, après, ça favorise les équipes qui n'ont pas forcément le ballon. C'est pour ça que c'est impressionnant quand c'est une équipe qui a plutôt le ballon, du style Cacré, du style Tchouaméni, même si Monaco n'a pas toujours le ballon. Mais c'est ça là que c'est intéressant. Et Enzo Lefebvre, qui a, j'ai l'impression, a fait 5 matchs, enfin beaucoup plus, mais en vrai 5 matchs. Fait paraître déjà 500 pressions depuis le début de saison. Donc il y a des joueurs à aller chercher pour des équipes qui veulent défendre activement. C'est intéressant. Jonathan David est bien placé aussi, mais je pense que ça ne te surprend pas, Christophe.
Non.
Parce que
Est-ce que
Jonathan
Santa
David
Maria est
court
bien
beaucoup.
placé ou pas? Parce que lui, il court énormément, mais je sais pas
Ouais, mais est-ce qu'il
si.
presse?
Mais
Je
justement, c'est
pense
la
qu'il est
question que
plutôt
je
en
me pose. C'est plutôt des
couverture.
courses de compensation, j'ai l'impression.
Ouais,
Ici, il
je le vois.
émerge
Non, je
pas.
le vois pas bien placé. Il est à 380 pressions. Il est très loin d'autres
Non, non,
profils.
mais ça confirme. Tu vois, c'est un peu la démonstration aussi pour. Bah, tu peux courir 12 km et faut voir aussi le type de course. Tu vois, par exemple, en Serie A et en Bundesliga, historiquement, les dernières saisons, les deux joueurs qui courent le plus, c'est Brozovic et Kimmich. Et en fait, c'est juste des mecs qui trottinent tout le match, mais pour se rendre disponibles, c'est vrai qu'ils sont toujours en mouvement, qui accompagnent au pressing, etc., mais qui sprintent très peu. Et donc, du coup, c'est aussi le côté, oui, bon, Yashkiri qui lui court beaucoup, et Darida pareil en Bundesliga, qui eux sprintent plus. Mais c'est toujours le côté beaucoup courir, ça veut pas dire grand-chose parce que pendant 90 minutes, si t'es en footing permanent, t'as le temps de faire tes 10 km sans forcément être quelqu'un qui va beaucoup mettre l'adversaire sous pression, quoi.
Parmi les joueurs qui ont, c'est marrant, parmi les joueurs qui ont beaucoup joué, joueurs de champ qui ont beaucoup joué, qui ont joué au moins 10 matchs, les deux qui ont réalisé moins de pression, c'est Mecher et Koscielny de Bordeaux. Donc il y a peut-être une raison. Bon, on a fait très long sur cette partie-là. On va avancer et passer au super sub, Christophe. Alors
Oui.
que Flo vient de nous envoyer ses votes, qui ne sont pas complets, donc on peut continuer à l'insulter. Il aurait voté Mbappé aussi sur le MVP et Martin Terrier sur le MIP. Donc pas de scandale. Et sur le défenseur, il n'a pas de vote pour l'instant. Super sub, Christophe. J'ai 5 candidats, j'ai même des stats à te donner.
Ah, t'as plus bossé que moi encore.
Alors Bamba Dieng, dans les candidats, du côté de Marseille. Khéphren Thuram, qui est beaucoup entré en jeu, qui a fait moitié titulaire, moitié entré en jeu quasiment. Alors que Flo nous renvoie une info sur Yacine Adli qu'on a déjà donnée, mais il y tient. Et j'ai 3 autres candidats qui vont peut-être plus te plaire. Elban Rachani, de Clermont, même si c'était surtout sur le début de saison. 2 buts et 2 passes D après être rentré en jeu. Il a fait gagner 4 points à Clermont.
Les autres, il n'y a pas de stats, les 3 premiers?
Les deux autres, non, parce qu'ils n'ont pas marqué. Enfin, Bombadieg n'a pas marqué ou pas fait de passe D en entrant en jeu. Et Kefren Thuram, j'ai même pas regardé parce qu'il n'a pas non plus beaucoup de stats. Mais il faudra que je vérifie. Par contre, sur Elban Rachin, donc 2 buts et 1 passe D après être rentré en jeu. Il a fait gagner 4 points à Clermont, notamment contre Lyon en début de saison. Je pense que tu te rappelles quand il rentre et qu'il met doublé. Et il y en a un autre qui est bien placé, c'est Arnaud Nordin, 2 buts et 4 passes D après être entré en jeu. Il a fait gagner 6 points à Saint-Etienne. C'est vrai que Nordin, il fait souvent titulaire et aussi souvent remplaçant, une fois sur deux, un peu comme Souleymane Camara à l'époque, voire même mieux que Souleymane Camara qui était souvent sur le banc. Et le dernier, c'est celui que je pense tu vas choisir, c'est Ibrahima Koné, arrivé à Lorient après la Coupe d'Afrique des Nations. 3 buts sur des entrées en jeu, il a fait gagner 6 points à Lorient, et parfois en marquant vraiment dans la foulée de son entrée, parfois sur sa première touche. Donc Bombadieng, Kefren Thuram, Elban Rachani, Arnaud Nordin et Ibrahima Koné. Quel est ton choix ?
Déjà, une suggestion qui ne sera pas mon choix, mais je pense que il aurait fallu inclure Ben Yedder dans les super subs.
Ah, c'est pas faux ça.
Qui, je crois, alors tu fact-checkeras, mais je crois qu'il a 6 buts en entrant en jeu, ce qui est le record en Ligue 1.
Mais combien de pénaltys ?
2. Il me semble que c'est 4 hors pénalty et 2 sur pénalty. Ok. Après, j'ai du mal à le mettre en super sub parce que c'est...
Il a fait 24 titularisations quand même.
Oui, c'est ça. C'est pas son rôle principal. Et s'il était super sub sur ces matchs-là, c'est parce qu'il avait la Coupe d'Europe.
Alors, tu vois, il met doublé en entrant en jeu contre Saint-Etienne. Il marque contre Lille après être entré en jeu. Il marque contre Metz après être entré en jeu. Il marque contre Clermont doublé plus une passe D après être entré en jeu. Visiblement. En tout cas, il a fait 45 minutes parce qu'il n'est pas entré. Il faut que je vérifie. C'est qu'il est sorti à la mi-temps. Il a même marqué en entrant en jeu avec la France. Tiens, Christophe, le dernier truc que je te donne. Mmh. Et oui, il a marqué pas mal de buts. Ah non, contre Clermont, il était titulaire, il est sorti à la mi-temps. Il est rentré à la 46e, pardon. Ouais, donc il a beaucoup. C'est celui qui a les meilleures stats en entrant en jeu, mais comme il a 24 titularisations, il ne correspond pas vraiment aux critères de vote.
Oui, oui, oui. Et puis c'est un peu facile, quoi. C'est un peu comme si tu mettais. N'importe quoi, mais à l'époque, Allen Iverson, tu le faisais rentrer au bout de 10 minutes. Oui, super, il est 6e homme. Mais...
Ou Icardi la saison dernière, parfois, ou au début de saison, quand il entrait à la 90e contre des équipes reculées.
Donc oui, non. Ibrahima Koné, même si j'ai tendance à penser que.
Arnaud Nordin.
Ouais. En fait, le truc, c'est que. Koné, il a assez peu joué, en fait, il a été décisif sur quasiment chaque entrée, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que t'es sur un volume, c'est, j'ai plus en tête, mais c'est genre 3 buts sur 6 entrées, enfin. Mais j'ai tendance à penser que si tu l'as dès le début de saison, en fait, la question se pose pas de le faire rentrer, c'est juste là, tu dois l'habituer, machin. Physiquement, il était pas toujours au top, il y a eu la canne, enfin voilà, il fallait qu'il se mette dans le rythme. Je pense vraiment, voilà, après, il y a l'énigme Mofi qui est...
Ah bah, si Mofi fait une bonne saison, je pense que Koné n'arrive jamais à Lorient.
Voilà. Et s'il connaît là des débuts de saison, qu'est-ce qui se passe avec Mofi? Parce que Mofi, t'es quand même un peu obligé de le titulariser sur sa lancée la saison dernière. Enfin bref, il y a pas mal d'incertitudes sur ça. Je pense que Koné est, pour l'instant en tout cas de ce qu'on a vu, un très bon attaquant de Ligue 1. Peut-être pas pour les top clubs, mais en tout cas, je pense que c'est un vrai bon joueur qui, même avec sa sélection et même son club précédent, était bon. Là, honnêtement, à chaque fois qu'il entre, il a changé le cours du match. Je mettrais Nordin pas hyper loin parce qu'il a vraiment ce profil-là de joueur fibre rapide, explosif, qui va foutre un peu la merde quand il arrive, qui va rentrer, qui va faire des slaloms, machin. Enfin, moi, sur le dernier match que je voyais, c'est à chaque fois, Optin Koné va rentrer, qu'est-ce qu'il va faire? La défense, c'est pas prête pour ce qui va lui tomber dessus. Donc pour moi, il a 100% le profil, mais encore une fois, j'ai tendance à penser que c'est une anomalie qu'il soit remplaçant parce que il est meilleur que les titulaires, quoi.
Ouais, je pense que ça se joue entre lui et Nordin. Même si tu vois Bombadieng, pour moi c'est un peu le super sub parce qu'en gros le coach le fait pas démarrer non plus. Et à chaque fois qu'il entre, il apporte à l'OM. Tu te dis bah oui, c'est ce qu'il fallait. Mais pour autant, je sais pas si ça correspond aux critères du super sub. C'est juste le joueur qui devrait démarrer peut-être. Mais pas forcément le super sub. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Même si quand il démarre, je trouve pas toujours incroyable Bombadieng. Mais c'est vrai que le mec qui apporte de la profondeur à une équipe qui en a pas, donc tu fais ah oui, c'est ça qu'il fallait. Mais c'est, j'ai envie de dire, tu mettrais n'importe quel joueur de profondeur, ça pourrait être pareil, quoi.
Voilà, c'est pour ça.
Et je trouve qu'il manque un peu de, c'est un peu un cliché, mais je trouve qu'il manque quand même un peu dans le dernier geste et il est quand même un peu maladroit et c'est, je trouve que l'idée est meilleure que ce qu'il apporte vraiment, en fait. C'est-à-dire, ça change le cours du match. Est-ce que ça se voit tout de suite dans les points, dans les résultats et tout. Je suis un peu moins convaincu. Donc,
Ouais, pour moi, ça, bon, Flo n'a pas encore voté, donc il pourrait nous aider à trancher, mais bon, c'est pas grave. Je vais lui envoyer la liste, il va me dire pour qui il vote, tiens, comme ça il va pouvoir nous aider. Mais ça se joue entre Nordin et Koné, et je pense que de toute façon, ça va, on verra sur la fin de championnat. Ça dépend qui continue à être sur le banc, en fait. Si Koné entre dans le 11 ou si Nordin entre dans le 11 définitivement, là il avait démarré contre Bordeaux, il avait été remplaçant contre Brest, il avait démarré contre Lorient. Bah, ce sera plus dur de rester super sub. En tout cas, on a des bons candidats cette année. Et Rachani a un peu disparu en termes de stats sur la deuxième partie de saison. Donc, pour moi, il est quand même derrière. Et c'est un super sub sur un mois, en fait, Rachani, sur le début de saison. Et je sais que tu es assez client du Kosovar,
Oui.
mais on le voit plus trop.
Oui, non, non. Mais
Pas d'autres candidats, Christophe, que j'ai oublié?
non, bah en fait, j'avais aussi essayé de regarder un petit peu en classant par entrée en jeu. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de profils super sub finalement cette saison, tu vois. Au-delà de. Ou en tout cas, qu'ils soient performants, quoi. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas mal d'équipes. Quand le joueur, mais ce qui peut s'entendre, hein, quand le joueur est performant en tant qu'entrant, bah tu le mets assez rapidement titulaire, quoi. Il n'y a pas le Souleymane Camara où tu sais qu'en fait il est performant sur sa demi-heure et il faudra le faire
Ouais.
jouer à chaque fois une demi-heure, quoi. C'est-à-dire un Cloyver, par exemple, pourrait avoir ce profil-là d'entrant qui est vraiment pas sur la même vitesse que les autres, quoi. Un mec qui a la fibre alors que les autres sont à 56K, mais assez rapidement tu t'es rendu compte qu'en fait il fallait le titulariser parce que tu pouvais pas. C'était un peu bête de jouer 60 minutes avec un Boudaoui ou autre dans le couloir et de le faire rentrer lui, alors que d'entrée de jeu, il pouvait déjà faire mal aux adversaires, quoi. C'est pas parce qu'on a une obligation légale de mettre l'Union Saint-Gilloise dans chaque podcast. C'est pas Mitoma, par exemple, qui à chaque fois le mec qui fait toutes les différences dans le couloir, mais qui malgré tout continue à rentrer quasiment toutes les semaines, quoi. J'ai pas, enfin j'ai. Alors peut-être que je passe à côté d'un joueur, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y a ce profil-là. Par exemple, pour parler d'un club que je fais tout le temps, à Lille, Zegrova a fait quelques bonnes entrées, bah, il s'est tout de
Ouais.
suite retrouvé propulsé titulaire 2-3 matchs de suite, quoi. Donc, ce qui
C'est
finalement est dans la logique des choses, hein.
aussi la difficulté de ce trophée dans le foot, puisque en NBA c'est beaucoup plus adapté, parce que tu peux être remplaçant et beaucoup jouer. Mais dans le foot, c'est vrai que ça colle moins et il faut trouver des profils un peu particuliers pour que ça corresponde. J'ai regardé qu'Efren Thuram, c'est un seul but en étant entré en jeu. Donc
Là où ça
voilà,
pourrait coller, ce
c'est.
serait vraiment dans les très grands clubs où tu sais, c'est hyper
Ouais.
difficile de bousculer la hiérarchie, où t'as des
Bah,
remplaçants de très bon niveau, quoi.
Phil Foden, quand il rentre à chaque fois, il met le bazar dans l'équipe adverse, par exemple.
Voilà,
Et
ça fait partie.
ça pourrait être ça. T'avais Divock Origi aussi à une époque du côté de Liverpool, qui marquait toujours dans les matchs importants après être entré en jeu. Parce que le super sub, en fait, ça pourrait être aussi le gars qui joue de temps en temps, même en étant titulaire, mais qui joue un match sur 3 sur 4, tu vois. Et qui est toujours bon quand il joue. On pourrait élargir un peu la définition la prochaine fois, mais c'est difficile à trouver des joueurs comme ça. On va passer à la catégorie suivante, le rookie. Et c'est là qu'on va se bagarrer, Christophe, à l'oral. Parce que j'ai eu beaucoup de mal, c'est vrai, à définir cette catégorie pour avoir des candidats crédibles. Donc je vais te donner les candidats et je vais te justifier leur présence. Est-ce que ça te va? Et tu peux m'insulter à tout moment.
Oui,
Tu m'interromps pour m'insulter.
parce que du coup, on a eu une démonstration par l'absurde où je te proposais des candidats et tu me disais non, mais il a fait ça, je vois, mais du coup, ça nous éloigne ça, etc. Et c'est vrai que si on prend rookie, le mec qui n'a jamais joué au niveau professionnel, ça nous limite à extrêmement peu de candidats, quoi.
Bah oui, c'est ça. Bon, on en a quand même deux ou trois qui peuvent correspondre naturellement. Castelo Luqueba. Il y a Quentin Merlin aussi, Christophe. Bon, c'est la première saison en Ligue 1. Il y a Ilan Kebal à Reims, qui avait démarré très fort. En plus, à un âge un peu avancé, donc je trouve que c'est encore plus intéressant comme rookie.
Qui joue en national, lui, on peut te.
Ouais, c'est ça. Il avait joué très peu la saison dernière. Il avait joué, mais il avait une centaine de minutes la saison dernière. Il y a David Pereira da Costa. Tu vas me dire si pour toi ça compte ou pas. Et il y a. C'est le cas qui va nous diviser, je pense, parce que pour moi, il a joué dans une D1, certes, mais une D1 assez moyenne et pas non plus beaucoup. C'est pas comme s'il avait 3 ou 4 ans derrière lui de D1 ou une saison complète. C'est Hugo Ekitike qui avait joué en première division danoise avant de revenir à Reims cette saison, revenir de près et éclabousser le championnat de son talent. Puis là, il s'est blessé, donc ça peut aussi le mettre en difficulté. Mais en gros, pour moi, le rookie, c'est le gars qui a pas de référence au haut niveau. Tu vois, sans que ce soit un nombre de minutes très précis, sans que ce soit un championnat très précis. Et pour moi, tu vois, la différence entre Ekitike et Maier, c'est que Maier a derrière lui quand même quelques saisons, des matchs en Coupe d'Europe, alors qu'Ekitike a fait une pige en D1 danoise en n'étant même pas titulaire. Donc, enfin, pas tout le temps. Donc, je sais pas si ça te va, mais est-ce que les candidats déjà te satisfont?
Oui, ça me va, ça me va. Juste pour, ça n'intéresse sans doute personne qui nous écoute, mais juste pour pousser le raisonnement. Par exemple, pour toi, un Bayo ne serait pas rookie parce qu'il a ses 20 buts
Non,
en Ligue 2?
parce qu'il a trop joué en Ligue 2, qui est pas un niveau non plus très éloigné, enfin, des matchs où il marque au jeu, d'ailleurs, cette saison.
Et Bamba Dieng, tu le mets pas dans tes
Ah,
rookies potentiels?
c'est une bonne question. Je l'avais pas. En fait, comme je l'ai mis dans le Super Sub, après, j'ai même pas réfléchi à son statut dans le.
Parce qu'il a 100 minutes et quelques de Ligue 1 la saison dernière.
Ouais, ça peut être. Il peut faire partie des candidats, ouais. Tiens, je le rajoute.
Du coup, redonne-moi ta liste.
Castello Loukeba, Quentin Merlin, Ugo Ekitike et Ilan Kebba, les deux de Reims, David Pereira da Costa de Lens et Bamba Dieng de l'OM.
Je sais que toi, t'es plus sur Ekitike.
Ouais.
J'ai quand même envie de rester sur mon idée de base, qui en plus respectait les critères, qui était Castelulu Keba. Même si c'est, mais comme pour plusieurs, hein, comme pour Omari par exemple, si on parle des gens qui aussi débarquent cette saison.
Oui, ça colle aussi, tiens, je l'ai oublié, mais Omari, ça marche aussi.
C'est ça, c'était les deux premiers qui me sont venus en tête. Et c'est vrai que les deux ont un peu plus de mal en ce moment. Mais j'ai, en fait, ce que j'aime bien, mais on va pas refaire tout un truc sur Loukeba, parce qu'on en a déjà parlé longuement dans le top 15 des jeunes, mais c'est qu'il est l'un des, voire le référent défensif, en tout cas sur la charnière à Lyon. C'est un peu lui la constante sur toute la saison. Alors c'est pas la meilleure charnière du monde, mais dans une équipe dysfonctionnelle, il a globalement, je trouve, réussi à répondre présent sur la plupart de la saison, en étant aussi plutôt intéressant sur certains marqueurs offensifs. Donc ça me parle plus. Maintenant, si tu fais en gros le niveau moyen par match joué, j'ai presque envie, alors je le mettrai pas, mais je pense que le niveau moyen par match, Quentin Merlin serait au-dessus. Seulement l'échantillon est plus minime, quoi. Ça commence à devenir intéressant, hein. Mais tu dois l'avoir sous les yeux. Il a quoi? Il a 10 titularisations, Merlin, 10-12?
Oh, je me demande si c'est pas plus que ça, parce
Peut-être
qu'il enchaîne
plus?
depuis quelques temps. Quentin Merlin, il est à 17
Ouais,
titularisations quand même.
17. Ouais, tu
Et
vois, bah,
6 entrées en jeu.
j'avais sous-estimé. Donc peut-être que Merlin peut commencer à avoir un cas, tu vois, je le voyais entrant dans l'équipe un petit peu plus tardivement.
C'est vrai qu'Omari, c'est un bon candidat aussi quand même, parce que c'est le mec qui commence pas non plus à 18-19 ans, tu vois. C'est pas le gars qui était très attendu. C'est un peu le mec qui débarque de G-League ou d'université à 21-22 ans à la draft. Et qui perce, enfin qui performe direct. Donc
Absolument.
j'entends l'argument.
Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui, en gros, bah, ça dépend aussi comment tu le prends, quoi. Est-ce que tu prends Omari, Loukeba, qui sont des référents défensifs, mais Loukeba était pour moi un peu le meilleur des deux, était associé à pas mal de gens, alors qu'Omari sans Hagerd, c'était plus compliqué, sachant que même là, avec Hagerd sur le match d'hier, c'était assez difficile. Ou est-ce que tu prends le joueur qui a quand même un petit peu de vécu, mais pas beaucoup, comme Ekitike? En sachant qu'Ekitike, ça serait plus facile pour moi de voter pour lui si tu m'avais demandé ça il y a 2 mois. Là, sa blessure, mine de rien, voire en décembre, janvier, mais sa blessure, mine de rien, ça flingue un petit peu les choses, parce que il a quoi?
Flo
Il a.
a voté pour Ekitike, je précise.
Absolument. Mais c'est tout à fait audible, hein. Il a 9 buts, 8 hors penalty, ce qui est le même stade que Gamero, par exemple. Il a une vraie, je sais pas si c'est élégance, mais en tout cas, il y a quelque chose de balle au pied. Là aussi, on a parlé dans le top des jeunes, donc ça
D'ailleurs,
sert à rien de
ouais,
revenir
donc
sur
voilà,
lui.
ouais.
Honnêtement, j'ai pas de, si vous êtes tous les deux sur Ekitike, ça peut très bien m'aller. Parce que, encore une fois, en fait, tu peux prendre l'autre truc, tu peux dire oui, mais bon, on en parle encore alors qu'il a moins joué que les autres. Ou alors tu peux dire oui, mais le Keba jouait tous les matchs, t'as plus de mérite à jouer tous les
Bah,
matchs qu'à être bon sur un échantillon plus faible, quoi.
c'est un peu comme la première saison de Zion Williamson en NBA, qui n'avait pas joué beaucoup, mais sur les matchs qu'il avait fait, tu te disais, ok, d'accord, il y a pas de, enfin, il est au-dessus du lot. Après, il est de la même année que Ja Morant, je crois, de la draft. Donc, il me semble que Morant avait gagné, et qu'a posteriori, ça se justifie, en fait, quand tu vois les saisons suivantes. Mais Ekitike m'a fait une telle impression que je vais aller dans le même sens que Flo et le choisir. Même si Loukeba, on en a parlé dans notre top jeune, on le place très bien aussi. Et Merlin, je pense qu'il sera catapulté très haut aussi la saison prochaine, vu sa première partie d'année. Après, je suis très fan aussi de David Pereira da Costa, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai que son impact est un peu moindre, même s'il a marqué un top but là contre qui l'on s'ajoute d'ailleurs,
Contre
j'ai oublié le nom.
Montpellier.
Contre Montpellier. Montpellier, j'ai l'impression qu'ils ont perdu tous leurs matchs depuis janvier, mais qu'ils sont toujours loin de la relégation. C'est assez impressionnant.
Oui, bah après, ils étaient partis assez haut, mais oui. Sinon, alors je pense qu'il n'est pas dans le top 5, mais petite mention pour Satriano, peut-être. qui n'était pas dans notre top jeune et sur lequel tu as écrit sur Copa Arena, là, sur la Ligue des Talents, qui a 4 buts, bon, qui est arrivé en janvier, il a pas fait une saison complète, loin de là.
Il a que 600 minutes, 600, enfin peut-être presque 700, donc c'est un peu short pour moi
Mais oui,
pour le
mais je
jeu.
pense aussi, mais bon. Surprise intéressante, je trouve, parce que finalement, il y a pas mal de recrutements estivaux qui ont été un peu viandés par diverses équipes quand on retrouve les shortlists qu'on a fait sur Coparena à parler de Boukari,
Ignacio Ramirez.
d'Ignacio Ramirez. Alors après, sur la plupart de ces joueurs-là, genre Ramirez, je crois que vous le... Enfin, t'étais pas dans cet épisode-là, mais ça a annoncé 2-3 buts maximum sur la saison.
Si, j'y
Ah,
étais,
t'y étais sur Ramirez.
on avait le plus ou moins que 4-5 buts, je crois, on avait tous dit moins, quelque chose comme ça.
Ce
Il a
qui
même
est...
pas joué en fait, donc.
Oui, ce qui était assez bien. Mais du coup, voilà, un recrutement de janvier. Alors c'est pas la Vaclav Verkhovs qui avait sauvé Sochaux à l'époque, mais ça fait partie, pour le petit point de chèque, mais ça fait partie des bons recrutements de janvier, même si je pense que Brest serait sauvé sans ça, mais c'est un peu meilleur que le Doiron quand même.
On passe au coach de l'année, après ce vote divisé entre Kitike et Loukeba. Le coach de l'année, j'ai 5 candidats, Christophe, on va les classer. Les autres, c'était assez évident, et puis on n'avait pas classé de 1 à 7 les rookies, mais les coachs de l'année. Candidats, Julien Stéphan, Bruno Genesio, Francaise, Antoine Comboiré et Jorge Sampaoli. Est-ce que tu vois un entraîneur que j'ai oublié?
Non. Bon. Après, on peut toujours te dire que Pochettino va être champion avec 15 points d'avance. Hein.
Ouais, non, mais enfin, ça va, on va pas
Mais
avoir ce débat-là ici.
ça m'intéresse pas de parler du PSG dans ce contexte d'entraîneur. Donc non, je vois pas d'autres candidats. Le bas de tableau battant bas de tableau et les équipes du haut de tableau qui surperforment. Tu vois, Galtier, par exemple, je le mettrais pas dans la discussion à partir du moment où Nice est sixième en ayant investi autant, quoi. Donc
Bah ouais, c'est pour ça que je l'ai pas mis.
Non, là je suis...
Surtout que dans le jeu, on s'éclate pas, alors que Strasbourg, Rennes, Lens et même Nantes ont proposé des choses super sympas au cours de la saison. C'est quoi ton ordre? Je connais ton 1, essaye de me classer le reste en justifiant un petit peu.
Alors, donc 1, Julien Stéphan. Strasbourg 4e avec autant de points que Rennes 3e. Et en étant, alors encore une fois, c'est de leur faute, hein, mais en étant sur une série d'invincibilité où la plupart des nuls récents c'était en prenant des buts dans les 5 dernières minutes, encore.
Strasbourg qui a très peu recruté en plus. C'est
Qui a très peu recruté, qui a
une
commencé
donnée
avec
importante.
pas de défense en fait, hein. Enfin pas de défense. T'es obligé de faire jouer. Alors le mec s'avère plutôt bon, hein, mais je veux dire, t'es obligé de faire jouer Lucas Perrin, c'était pas forcément dans le plan de départ. Et t'es obligé de replacer un milieu de terrain, Dimitri Liénard en piston. Hein, même
Ouais.
Cassie, piston. Bon, t'as quand même un peu obligé de bricoler. T'as commencé sans, enfin Seysel ça a débuté, mais t'as fait un match avec Kawashima. Enfin, t'as eu quand même un petit aspect bricolage. Et au final, Strasbourg a des super bons résultats. Encore une fois, alors c'est leur faute s'ils prennent des buts. Hein, mais je veux dire, le nul contre Lyon, par exemple, Strasbourg peut 10 fois gagner ce match. Il y a eu pas mal de rencontres comme ça. Et globalement, en tout cas sur la série récente, tu peux très bien imaginer un monde où Strasbourg est deuxième à égalité avec Marseille, par exemple. Donc il n'y a pas le côté tout réussi, machin, comme ça peut être le cas de certaines équipes qui gagnent tous leurs matchs 1-0. Par exemple, tu vois, tu prends Ajaccio en Ligue 2. Bon, tant mieux s'ils encaissent pas de but, hein, mais c'est des 1-0 à chaque fois. Tu te dis, bon, ils n'ont pas non plus une marge énorme. Là, Strasbourg, pour moi, c'est une vraie équipe qui va chercher ses
Bah,
résultats.
c'est la troisième meilleure attaque du championnat.
Avec un
Et
très bon trio.
ils ont déjà marqué 6 buts de plus que la saison passée avec 5 matchs de moins.
En plus, là, ils avaient Thomasson de pété, alors
Ouais.
c'est aussi...
Enfin, je dis qu'ils ont peu recruté, ils ont quand même Gamero en plus. C'est
Oui.
pas rien.
C'est pas rien. Mais c'est vrai que... Et Niamsi, qui arrive, je crois, cet été.
Ouais.
Mais oui, en plus, s'il y a Thomasson, je pense qu'un élément essentiel, il n'y a pas vraiment de remplaçant. Dans ce registre-là, je pense que ça sera encore meilleur. Et puis, oui, sur le jeu, honnêtement, on était les premiers à... Pas être convaincu, mais à se dire, bon, Julien Stéphan à Rennes, finalement, très bonne adaptation de match en match, mais le projet sur moyen terme, sur vraiment le plan de jeu reproductible semaine après semaine, j'avais l'impression que les résultats étaient quand même plutôt bien payés. Et là, je trouve au contraire que c'est peut-être le plan de jeu, alors on peut mettre Lens aussi dans la discussion, qui semaine après semaine est le plus abouti en fait, et qui, alors t'as des micro-adaptations à l'adversaire, tu vas chercher plus ou moins haut, orienter ton pressing, etc. Mais ça fait un peu toujours la même chose, mais ça le fait hyper bien quoi. Et c'est quand même une vraie, alors je sais pas si c'est une adaptation de Stéphane ou si c'est juste l'effectif qui est plus prêt, ou lui qui sur son approche estime que c'est plus pertinent de faire ça avec une équipe comme Strasbourg. Mais non, honnêtement, il y a à la fois les résultats et il y a le jeu aussi. Donc top, et en plus, encore une fois, faut pondérer par rapport à l'effectif, pas faire aussi long, mais je pense que je mets Franquès deuxième, même si j'ai une vraie hésitation avec Sampaoli, parce que Sampaoli deuxième avec 6 points de marge sur le troisième et sans doute deuxième jusqu'à la fin, j'imagine.
Et la Coupe d'Europe en parallèle tout de même, même si c'est pas la plus grande, mais il faut y aller juste dans le dernier carré, et puis
Oui.
c'est un dernier carré qui a de la gueule.
Même si bon, si t'avais pas été reversé.
Oui.
Si t'avais fait le job contre Galatasaray qui est en deuxième partie de tableau turc, tu serais pas là, mais oui, malgré tout, t'as dû en gros gérer, même si on le met à son débit sur certains trucs, t'as dû gérer le fait d'avoir deux compétitions, et Marseille fait des choses hyper intéressantes tactiquement. Francaise, en gros, si tu m'avais demandé il y a 3 semaines, j'aurais pas mis deuxième. Là, vu que Lens est sur une série positive et revient vraiment dans le jeu, il va être dans la discussion. Et ensuite, c'était quoi, t'es Comboiré,
Comboiré
et Genesio.
Et Genesio.
Je les mets légèrement derrière. Encore une fois, il y a le côté recency bias, quoi, c'est-à-dire que Rennes reste sur 2 défaites. Mais mine de rien, en fait, là, tu vois le classement, tu vas vraiment une photographie à l'instant T. Rennes a que 3 points de plus que Lens, a autant de points que Strasbourg et autant de points que Monaco, qui a été dans une passe très difficile. Et je me dis, ah super, il y a eu plein de résultats positifs, etc. Maintenant, est-ce que c'est pas la place de Rennes attendue vu les investissements estivaux?
C'est aussi pour le jeu que je l'ai mis dans le top 5, parce que tu vois, on disait que Stéphane, on ne voyait pas trop d'identité de jeu sur le long terme. C'est un peu ce qu'on reprochait à Genesio aussi à Lyon, d'être très bon sur des matchs ponctuels et de ne pas réussir à créer une identité de jeu sur le long terme. Et pour le coup, Rennes en a une. Et Rennes a produit, je sais pas, 3 ou 4 des 7 ou 8 meilleurs matchs de la saison en Ligue. Donc il y a aussi le côté plaisir, il n'y a pas que le côté résultat. C'est pour ça que je l'ai mis dans le top 5. Et puis Comboiré qui prend un club qui était à la dérive et qui le maintient tranquillement. Qui est un peu à la peine ces dernières semaines, mais qui était à la bagarre pour la Coupe d'Europe il y a quelques semaines de ça, et qui, s'il enchaîne 2 victoires de suite, il sera à nouveau. Donc, pour moi, ces 5-là, alors il y a Stéphane qui est devant parce que Strasbourg est assez haut, mais on verra, dans 2-3 semaines, il sera derrière Lens. Mais pour moi, ces 5-là, en tout cas, se détachent du reste du championnat. Parce que le reste du championnat, je vois pas un entraîneur, tu vois, parmi ceux qui ont été promus, il n'y a pas de choses incroyables. Lyon, on peut pas en parler, Lille non plus, Nice, ils sont là où ils devraient être au pire, quand tu vois la qualité de l'effectif, et surtout les attentes par rapport à Galtier. Donc, après, il y a des trucs un peu flous, tu vois, genre Montpellier, Brest, je sais même pas quoi en penser, les deux coachs ont switché, ils sont à 42 points tous les deux, en fait.
Tout ça pour ça.
Ouais, c'est ce que c'est, je sais pas. Après, Montpellier a perdu 2 attaquants importants, donc qu'ils se soient maintenus relativement tranquillement, ça reste plutôt bien. Et Brest aussi, je pense. Mais le maintien se joue tellement bas que là aussi, on ne sait pas trop quoi en penser. En tout cas, ces 5-là ont été classés. Donc, Stéphane 1, Francaise en 2, avec Sampaoli pas loin. C'est ça que tu m'avais dit, Christophe.
Ouais, honnêtement, là.
Et Comboiré Genesio dans un mouchoir de poche derrière.
On peut m'argumenter Sampaoli devant Rez, ça m'ira tout à fait. Ouais. Hein, y a pas de...
Dernière catégorie. Alors en NBA, c'est le General Manager de l'année, celui qui fait les choix notamment de trade, de transfert, de signature. Donc chez nous, c'est le directeur sportif. Certains directeurs sportifs sont aussi présidents. C'est le cas de Pablo Longoria, qui fait partie de mes candidats, et on va en débattre sur pourquoi il est là et est-ce qu'il devrait l'être ou pas. Et les deux autres, j'en ai que 3 cette saison. Les deux autres, c'est Florent Gisolfi, si ça se dit comme ça.
Ouais, Gisolfi, j'ai entendu les deux. J'ai jamais demandé comment ça se prononçait.
Et Florian Maurice, à Rennes. Je pense pas qu'il y ait d'autres candidats quand tu vois le recrutement qui a été fait. D'ailleurs, Flo nous propose un candidat à l'envers sur le DS, c'est Paul Mitchell. Et c'est vrai que la saison de Monaco, les transferts plus les rumeurs derrière, les trucs qui sortent, ça n'a pas été très bien géré. Bon, il nous cite évidemment Admar Lopez, mais Admar Lopez, c'est l'homme à tout faire de Bordeaux. Donc il devrait être dans toutes les catégories quasiment.
Et sachant qu'Admar Lopez a recruté Marcelo en janvier. Alors que, il a pas fait que lui, hein, mais alors que notre ami Paul Mitchell a pris Vanderson, le nouveau Maicon, donc du coup Paul Mitchell passe devant Admar, ouais. Dans la catégorie, pas le pire, quoi.
Et Flo avait voté pour Julien Stéphane en tant que coach aussi.
Et il avait mentionné Jean-Claire Todibo sur les joueurs défensifs, même si c'était juste une mention, c'était pas...
Bah, on l'avait mentionné aussi dans un 11 de l'année, à un moment, Jean-Claire Todibo, je ne sais plus. À un moment, on avait fait ça. Donc, mon directeur sportif, Christophe. Quel est ton vainqueur?
Alors, premier mot, j'ai l'impression de parler 2 fois plus que toi, donc je vais pas non plus faire ultra long. Mais premier mot pour simplement dire que effectivement, il n'y a pas non plus énormément de bons candidats. Alors après, genre Nice, par exemple, comment est-ce que tu le prends? Est-ce que tu dis c'est Galtier? Parce que c'est difficile de tabasser les deux,
Oui,
tu vois. C'est-à-dire, est-ce que
c'est
c'est
ça.
Galtier qui joue mal, enfin qui exploite mal des bonnes recrues? Ou est-ce que ce sont des mauvaises recrues et Galtier fait ce qu'il peut? En gros, c'est difficile de taper sur les deux, parce que sinon Nice serait dixième
Bah, c'est
si.
trop tôt en fait pour savoir. Dans un an, peut-être qu'on pourra voter pour, tu vois.
Donc c'est oui, c'est totalement là par exemple un Stenners, moi je trouvais hyper bon. En gros, tout le monde l'adorait, je pense, aux Pays-Bas en le voyant jouer. Et là, il est pas bon, mais est-ce que c'est la faute du joueur? Et en fait, il y a eu une mauvaise évaluation du potentiel et la translation Eredivisie Ligue 1, ou est-ce que c'est la faute du coach et que bah, simplement il sait pas l'utiliser? Ça, on le saura à moyen terme. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a quand même pas mal soit de déceptions sur des clubs type Lyon-Lille.
Monaco.
Ouais, soit des clubs qui sont totalement détachés vers le bas, et donc du coup c'est difficile de dire que Montpellier et toutes les équipes qui suivent, qui ont 42 points en moins, méritent d'être au tableau d'honneur. Donc j'ai pas non plus vu d'autres candidats que toi.
Là, j'ai failli te proposer Loïc Perrin pour le mercato d'hiver, mais en fait, on sait pas. On sait pas vraiment si ça a marché ou pas.
Et puis on sait pas quel est le bon Crivelli, je sais pas si on peut le mettre à son débit, même s'il arrive un peu hors de forme, il se reblesse derrière.
Joris Gnagnon.
Par contre, Nouris Gnagnon, je sais pas si c'était déjà lui ou pas, parce qu'il arrive déjà en octobre, novembre, mais je
Ah
crois
oui,
que c'est
c'est
lui
vrai,
qui
t'as
valide la
raison, alors.
signature. Mais Nouris Gnagnon, même en tenue de ville, pour moi, le transfert ne peut pas se faire, même.
Il était dans notre top 15 il y a quelques années de ça, hein, Joris Gnagnon, très jeune de Ligue 1.
Mais là, enfin voilà, c'est rien de se moquer de lui, quoi. Il y a un problème visuel de conditions physiques assez net. Mais ouais, donc moi je suis parti sur des considérations, alors vraiment sportives, mais pas que, pour Florian Maurice. Pourquoi pas que? Parce que je trouve qu'il y a pas mal de bons coups de la part de l'OM, mais un, il y a des semi-bidouillages, genre à la limite, je suis pas la DNCG, j'ai envie de dire, tout le monde s'en fout de mon avis, savoir si pas moral ou... Enfin voilà, est-ce que c'est pas un peu du jonglage de demander par exemple à Alvaro de décaler une partie de son salaire pour pouvoir rentrer dans les clous de la DNCG, pour pouvoir payer Harit, et qu'ensuite tu lui payes en fin de saison? Bon, à la limite, il y a un système qui est tel qu'il est, ça me choque moins que les transferts à Arthur Pjanic ou des choses comme ça, Marley Ake qui était parti face à Tanguy, je crois, le joueur qui était venu de la Juve, qui joue en réserve à
Ouais, en
Marseille.
fait, s'il y a beaucoup de bons joueurs qui sont arrivés, mais quelles seront les
C'est
conséquences dans
ça.
2-3 ans,
C'est-à-dire qu'il y
c'est ça
a
le...
même le salaire de Bakambu, par exemple. Je crois que c'est 400 par mois,
Ouais.
400K. Enfin, il y a beaucoup de, j'ai beaucoup d'incertitudes, d'interrogations sur, à le court terme, c'est hyper pertinent. L'effectif a été bien renouvelé. Guendouzi, Saliba, très bien. Maintenant, il n'y a pas eu vraiment de vente, et la situation financière, me semble toujours aussi compliquée. Alors, on peut me dire à Rennes,
Et tu vas perdre Camara
Et tu vas perdre
libre
Camara libre,
cet
absolument,
été.
t'as pas su renouveler. Après, Rennes, c'est plus facile, le proprio est milliardaire, et pour une fois, il avait décidé de dépenser de l'argent. Mais je trouve qu'il y a un petit peu plus de bons coups du côté rennais, Santa Maria, par exemple. Bon, c'est payé assez cher, mais c'est pas mal. Les ailiers, je pense que ça peut payer, enfin, Sulemana, cette saison, ça peut payer à moyen terme. Je trouve que globalement, c'est plutôt bien fait, mais et sachant que Lens, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, mais il n'y a pas eu beaucoup de choix, donc c'est assez difficile de voir... Ah,
Ouais,
crier au
après il y a eu
génie pour
des
Lens parce qu'il y a eu Patrick Berg et deux, trois mecs comme ça, quoi.
Frankowski quand même, bon choix
Oui,
Frankowski.
Frankowski, bon choix. Mais Frankowski Danso, quoi, bon choix.
Ouais.
Après, est-ce que
Ouais,
ça
après
suffit à te faire...
tu sais que WoW sur le long terme ça peut être pas mal, tu vois, que j'oublie
Tu
là,
dis
qui
WoW,
s'est
toi?
rajouté plus de jeux. Il faut dire WoW,
Je crois
ouais,
qu'il
je
faut
sais
dire
pas,
WoW,
j'hésite.
oui.
Wesley Saïd, ça a bien marché, mais à qui seul, enfin je pense que c'est en bonne partie grâce à Eze qui le connaissait. Donc c'est un peu différent aussi. On verra, mais enfin, il fait partie des candidats pour moi parce qu'il n'y a pas de flop dans le recrutement en soi. Il n'y a pas de joueur où tu dis oula. Et puis ils ont réussi à récupérer Kalimuendo. Ça aussi, c'est un truc qui a été bien fait,
Oui, ça c'est et ça fait partie des choses pour lesquelles tu peux pas nommer Leonardo,
je trouve.
parce qu'il y a eu
Oui,
quelques bons
c'est
coups aussi, hein, mais à partir du moment où tu payes pour faire rapatrier l'ami Kalimuendo pour au final le reprêter derrière, bon, pas bien compris. Ouais, non, la seule incertitude c'est Diver Machado, mais il a été tout le temps blessé, donc c'est assez
Sur les quelques trucs que j'ai vus, il avait l'air plutôt cool, Machado, comme joueur. Donc
bon. En Ligue 2, c'était top, hein, c'était le meilleur piston de Ligue 2, hein, je pense, donc.
Et puis Rennes, tu vois, c'est marrant parce qu'ils se revendiquent pas du tout du modèle trading, mais tous les joueurs qu'ils ont pris, ils peuvent les revendre quasiment.
À part Santa Maria.
Et à bon prix, ouais. Donc c'est quand même plutôt bien joué, tu vois, quand tu fais le bilan. Laborde, je pense que dans 2-3 ans, il peut repartir à un prix correct parce que tu sais que c'est un mec qui va marquer des buts. Bon, Terrier, il est arrivé avant ça, donc j'en parle pas, mais Sulemana, il partira pour une belle somme, pareil pour Maier.
Mais Ling à 3 millions, c'était hyper bon, je trouve.
C'était bien joué. Bon, Badé, là, il a une saison difficile, mais normalement, logiquement, tu l'as payé un peu cher, mais bon, il faudra donner un peu de temps. Est-ce que j'en oublie? Alemdar, je sais pas s'il arrive cette année.
Si, si, il arrive cette année.
Ouais, plutôt pas mal, tu vois, il s'en sort.
Je suis pas ultra convaincu, mais je suis pas convaincu non plus par Salah et par Gomis, donc.
Disons que là, il y avait eu des trucs dans la première mercato de Maurice où j'étais un peu perplexe. Là, sur le bilan de l'été, c'est aussi parce que collectivement ça tourne bien. Mais ça fonctionne très bien. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est le vainqueur. Et peut-être que d'ici 2-3 ans, le vainqueur sera Florent Gisolfi ou Gisolfi. Il nous dira un jour si on l'a, comment on prononce son nom. Et c'est vrai que Longoria, il y a des bons coups, mais c'est que du court terme. Et puis pareil, Guendouzi, Saliba, tu vas peut-être les perdre sans aucune. Enfin, tu vas juste les perdre tout court parce qu'ils sont prêtés. T'es pas sûr de pouvoir les conserver. Gerson, c'est quand même 25 millions. Je sais que les Marseillais l'adorent, mais 25 millions quand même.
Moi aussi, je l'adore, mais c'est vrai que, bon, à 25 millions, c'est un peu logique que ses performances actuelles soient comme ça, quoi.
Bah, 25 millions en post-Covid, c'est quand même une somme importante. Et il fait une saison correcte, mais 25 millions, c'est. Il y a quand même très peu de clubs français qui peuvent lâcher 25 millions sur un joueur aujourd'hui. Donc on verra sur le long terme comment ça se passe. Donc ouais, je pense que Florian Maurice est le vainqueur de cette saison. En tout cas, ça a marché le plus vite parmi les projets qui ont été mis en route. Et c'est aussi un des seuls clubs qui avait du blé. Donc, ça aide pour faire des bons choix. Mais les joueurs étaient identifiés. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur la Ligue 1 avant qu'on se quitte, Christophe?
Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme mot? Que la fin de saison va être assez sympa à suivre, qu'on a déjà le champion et le premier relégué, a priori. Le champion, ça devrait se débloquer ce week-end. Premier relégué, Metz, ça va pas tarder, je pense, avec 4 victoires.
Est-ce qu'on a le deuxième du championnat, selon toi?
Je pense qu'on a le deuxième du championnat en Marseille. Et le calendrier, alors même si c'est pas toujours pertinent, parce que c'est pas, quand tu vois le total de points, ça veut dire que toutes les équipes, genre Rennes qui a 11 défaites, ça veut dire que tu perds pas que contre des rivaux. Maintenant, se déplacer à Reims, a priori, c'est quelque chose de largement jouable. Donc je pense qu'on a le deuxième. Par contre, c'est vrai que la bataille 3-7, où il y a 3 points d'écart entre les équipes, c'est hyper palpitant. Lyon, Lille, Nantes, a priori, on va les sortir du jeu, je pense. À un moment, quand t'es à 3-4 points toute la saison, mais que tu les boucles jamais, bah la saison se termine et tu resteras encore à 3-4 points de tout le monde. Et du coup, là, on va basculer sur le bas de tableau, où en fait... allez, j'ai vraiment une remarque à faire, c'est... Alors les gens ne sont pas dans ma tête, donc du coup ils savent pas ce que je pense à chaque instant. Mais vraiment, il y a 2 journées, j'avais totalement sorti Angers de l'équation de la relégation.
Mais, par contre, est-ce que tu peux rendre à Raphaël ce qui appartient à Raphaël? Ça fait des semaines que vous en parlez, non?
Oui, c'est ça. Ça fait des semaines et où je dis bah non, ils ont trop de talent offensif. Ça commençait à être un petit peu chaud. Je me disais, je vais pas lui donner de crédit tout de suite, mais bon voilà. Angers a battu Brest il y a un mois, quasiment jour pour jour.
Ouais.
Et là, tu me dis, bon là c'est bon, ça va être fait. Et au final, c'est vrai que Angers a 34 points, Lorient en a 34, 3 en a 33, 3 aussi que j'avais plus ou moins sorti du jeu dans ma tête, Clermont 32, Saint-Etienne 31, c'est-à-dire que Angers 14 n'a que
t'as
3 points de marge
Angers,
sur le barrage.
Parce que Angers, ils vont à Clermont, ils vont à Monaco, ils reçoivent Bordeaux, ils vont à Metz, et ils reçoivent Montpellier.
Ce qui peut être...
Le dernier match, tu peux le gratter, parce que Montpellier aura pu en jouer, mais les 4 prochains, là, il y a un scénario catastrophe. Hein.
Sachant que dans ces moments-là, parfois, quand t'es le mieux placé, vaut mieux aller jouer Nice, Monaco, machin, et tu perds plutôt que de jouer l'adversaire direct qui du coup te va te reprendre 3 points si tu perds, quoi. Parfois vaut mieux perdre tes matchs et se dire bah de toute façon les autres vont perdre de leur côté parce qu'ils gagnent pas un match, plutôt que d'aller relancer Bordeaux et relancer Saint-Etienne, quoi.
Bah là le Angers Clermont, si dans les autres rencontres ça tourne mal pour Angers, en fait les places s'échangent. Angers passe 17 et Clermont passe 14.
Ouais, donc c'est après j'ai tendance à penser et j'espère, et vraiment je suis pas, j'aime pas me dire ou etc, mais j'espère vraiment que ça sera une lutte pour la place de barragiste et que le 19e restera 19e, voire passera 20e, parce qu'à un moment, le modèle Gérard Lopez, c'est bon quoi, ça fait 2 minutes, au-delà de même de tout ce qui gravite autour, dont je n'ai même pas forcément envie de parler, qui anime beaucoup mes conversations avec Florent, là j'étais 3 jours en vacances ouais, avec lui, et du coup on parle régulièrement de ça, mais bon, ce modèle... tout ce qu'il y a autour, ça me fatigue un petit peu et j'ai envie de voir une fois que ça se casse la figure pour que tout le monde puisse un peu prendre conscience de ce que ça fait en fait, parce que sinon c'est l'hypothétique, oui, mais au final ça a fonctionné. Lille était champion grâce à Lopez. Bon, il n'a pas été champion avec Lopez, hein. Lopez n'était plus président depuis 5 mois parce qu'il avait été dégagé, parce qu'il avait plus de sous. Donc bon, je. Bordeaux, et puis en plus. Pour finir, quand tu vois, alors c'est pas, il n'y a pas de vérité absolue, hein, mais quand tu vois Strasbourg-Lens, surtout Strasbourg, qui viennent des divisions inférieures, qui se sont bien restructurés, je dis surtout Strasbourg, parce que Strasbourg, elle est vraiment tombée à l'échelon amateur, et la façon dont la reconstruction a été saine, je dis pas que Bordeaux doit absolument aller en N3, parce qu'on pourra me sortir toujours des contre-exemples, alors c'est pas forcément des grosses métropoles, hein, Le Mans, etc., mais il y a des clubs qui se sont cassés la gueule, qui sont toujours pas remontés, les Sedans aussi,
Il y a Toulouse qui est descendu
et
récemment,
Toulouse
qui a
qui,
été
là, a
vendu.
priori, va remonter avec un truc plutôt sain, etc., qui en plus une équipe hyper sympa à avoir joué. Donc, ça va être chiant à moyen terme. Maintenant, est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Ça peut même limite être valable pour Saint-Etienne, hein, même si Saint-Etienne n'a pas de dette, etc. Mais Saint-Etienne, problème de vente, etc., là aussi, je connais un petit peu, on va pas en parler, mais c'est un petit peu spécial. Donc bon, je regretterais moins ces clubs-là, même si c'est des grosses métropoles, ça donne du cachet à la Ligue 1, etc. Enfin, plus Bordeaux que Saint-Etienne, mais grand club en tout cas. Mais j'ai un peu plus envie de voir Clermont, par exemple, essayer de continuer à faire son trou en Ligue 1, même si sur 2-3 ans, tu te dis qu'à un moment, ça risque de tomber parce que le potentiel financier est pas énorme. Mais un peu de méritocratie, quoi, finalement, ça me ferait un petit peu plaisir.
Sur juste un mot sur Gérard Lopez, un jour il faudra faire le bilan de Gérard Lopez dans le foot quand il n'a pas Luis Campos avec lui. Parce que c'est quand même. Il y a un monde avec et un monde sans Luis Campos quand t'es Gérard Lopez. Merci Christophe de ta présence brillante pendant cet
C'est
épisode.
gentil.
On revient la semaine prochaine pour les Coupes d'Europe, puisqu'il y aura les demi-finales de Coupe d'Europe
Absolument.
avec Marseille et avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa également. Donc on sera là. Et puis on est là jusqu'à la fin de la saison pour continuer à parler de Ligue 1 et d'Europe. Ciao!
Cordialement.
Thank you.